Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Beaucoup d'annonces pour une rentrée qui nous introduit dans un temps un peu plus intense. Lorsqu'on est retraité et qu'on vit un peu seul, un juillet-août ne semble pas véritablement des vacances puisque c'est un rythme qui est à peine différent. Toutefois, lorsque on reste à Paris, qu'on ne part pas à la campagne, eh bien, on sent la différence de cette activité humaine. Lorsque nous sommes peut-être plus jeunes ou moins isolés, eh bien, pendant cet été, nous avons eu diverses activités et nous avons compris que même lorsqu'on a plus de temps, on ne prie pas forcément plus. Donc, c'est toujours la charge du pasteur de vous dire à la rentrée en septembre de reprendre votre prière, votre chapelet et de renouer, non pas renouer tout à fait, avec une vie plus régulière qui vous permettra justement de prier et peut-être même de faire oraison. Seulement pour faire tout cela et pour avoir des bonnes résolutions de rentrée, il nous faut justement profiter de la providence, c'est-à-dire de ce que Dieu nous dit lorsque nous venons à la messe et que nous écoutons avant la sainte prière du canon, les textes qui nous sont donnés et qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, saint Paul aux Galates nous dit de vivre selon l'Esprit et d'avoir aussi un tempérament patient et doux. Il nous invite à canaliser notre caractère, notre sensualité, mais aussi, plus particulièrement notre caractère. Or, il est bien évident que parmi vous, il en est qui sont nerveux, et d'autres qui sont très calmes. Il en est qui sont inquiets et d'autres qui sont très débonnaires et très insouciants peut-être même. Et justement, cette rentrée sera marquée par votre tempérament. Il en est qui se couchent très tard et qui ne sont pas forcément jeunes à passer des heures sur leur tablette ou leur smartphone pour suivre des actualités ou pour envoyer des messages, comme on dit dans les réseaux sociaux. Cette capacité que nous avons de nos jours à abuser de l'électricité et abuser de toute cette modernité pour avoir un rythme de vie déjanté qui, à partir d'un certain âge, lorsque nos parents ne nous disent plus de nous coucher le soir, nous permet de faire un peu n'importe quoi et de nous coucher très tard, alors même que si nous travaillons ou s'il y a des activités le matin, être obligé à se lever tôt, ainsi être plus fatigué, moins présent pour user de notre intelligence, de notre volonté, pour être bienveillant, bon, doux, objectif et réaliste. Tout cela, ce sont des conseils que vous entendez tellement souvent que cela finit quand même par arriver par le monde. Le monde lui-même s'inquiète un peu de ce que des jeunes et des moins jeunes subissent une véritable addiction par rapport à Internet, par rapport aux heures passées sur ces images et sur ces informations. Il est donc en effet nécessaire en ce début d'année qu'un certain nombre d'entre nous prennent de véritables résolutions pour prendre le temps. Prendre le temps de se coucher plus tôt, prendre le temps d'être moins pris par cette modernité. Ça, c'est une évidence. Ensuite, cela ne peut pas être uniquement une volonté d'avoir une vie écologiste, une vie bio, en quelque sorte. À la manière de ceux qui ne veulent pas être intoxiqués, qui mangent bio pendant des années et qui finissent quand même par avoir un cancer. Tout cela pour bien comprendre que l'hygiène de vie peut être totalement naturaliste. Or, si nous sommes ici ce matin, et si un certain nombre de Parisiens ne se sont pas levés ce matin, alors qu'ils sont baptisés et qu'ils ont eu un catéchisme plus ou moins fort, et qu'ils n'iront pas à la messe, comme je le disais pendant l'été, alors que vous n'étiez plus que 120, 130, 140, même si le roi David a eu bien tort de compter ses sujets, il est bien évident que l'Église catholique est inquiète de voir que les baptisés ne vont plus à la messe, ne serait-ce que pour les quêtes et le denier du culte. Mais en ce qui concerne leur vie personnelle de prière et leur vie de famille et d'ouverture à la vie, cela, voyez-vous, implique la foi. Mais lorsque la foi est totalement relative, on finit toujours par ne plus suivre les commandements. Alors, en ce début d'année, il nous est bien nécessaire de remettre justement notre vie dans une saine hygiène naturelle et surnaturelle. Mais cette hygiène surnaturelle, elle vient de l'Évangile. Et aujourd'hui, Jésus, lui, ne se gêne pas pour faire un miracle qui, comme celui de Lazare, est un peu moins celui de la pauvre enfant qui était décédée, mais qui venait de mourir. Ici, alors qu'il est suivi par une foule, et qu'il y a même une foule dans la ville, dans le bourg d'où sort le convoi funèbre, c'est devant ainsi au moins 1 000, 2 000 personnes que Jésus va ressusciter un mort. Et nous devons, pour avoir la foi, non pas seulement regarder ce qui nous entoure, mais être très attentif et très dévot au miracle. Dans un premier temps, comme la conversation que j'ai eue avec une étudiante en médecine en 6e année, j'essayais de lui faire comprendre que l'existence de Dieu est évidente. La nature d'amour de Dieu n'est pas évidente. Mais en ce qui concerne l'existence de Dieu, mais je prends toujours les mêmes exemples et je vous lasse peut-être, si on a les yeux en face des trous et si on a des oreilles sur les côtés de la tête, ce n'est pas par des millions d'années et par le hasard, c'est par un être intelligent qui a voulu ces différentes existences. De la structure atomique du cristal, ou du diamant ou du fer et du calcaire, de tout ce qui peut composer même de la poussière sur laquelle nous marchons, sur la quantité incroyable de terre qui forme les planètes, les atomes qui forment les cœurs des étoiles, tout ce carburant extraordinaire, cet hydrogène, cet oxygène qui explose en permanence pour les étoiles. Mais que je puisse entendre dire d'une étudiante en médecine qui étudie le vivant, qui étudie les lois du vivant et de la nature, et qui me dit que tout ça, ça s'est fait par hasard, mais c'est extraordinaire. Et c'est bien cette apostasie silencieuse dont nous parlait Saint Jean-Paul II, mais qui est tout à fait constatée et constatable parmi ceux qui nous entourent. Alors, au-delà du miracle de la nature, de la vie, de l'évidence d'une intelligence qui organise la pluie, les graines, les plantes, ce que vous avez pu voir en dehors de la ville, mais aussi la preuve de l'intelligence de la nature humaine quand vous êtes revenu à Paris et que malgré la désorganisation éventuelle ou la saleté des rues, vous pouvez quand même voir des traces d'intelligence dans des bâtiments plutôt anciens, puisque les bâtiments modernes sont très pauvres en intelligence. Mais lorsque vous voyez cette église, que vous voyez ces artisans qui ont fait tout cela, qui ont suscité de la fonte et du fer toutes ces formes, qui des pigments ont fait toutes ces couleurs, tout cela ne peut pas venir du hasard. Mais aujourd'hui, Dieu, dans un évangile très simple, vous dit qu'il s'est incarné et qu'il n'est pas seulement un prophète, mais qu'il est Dieu qui s'est fait homme. Parce qu'aucun homme ne peut ressusciter un mort, aucun. Et que, actuellement, malgré toutes les supercheries, malgré tous les faux prophètes, malgré toutes les escroqueries religieuses possibles et imaginables, personne ne fait venir les caméras de télévision et les smartphones pour envoyer des vidéos un peu partout sur leurs réseaux sociaux pour montrer la résurrection d'un mort. Parce que c'est difficile à organiser et si c'est une supercherie, ça sera vite vu. Mais voyez-vous, lorsqu'à Lourdes, on examine les miracles, on prend des médecins qui sont ou chrétiens ou athées pour étudier ces dossiers médicaux. Et si aujourd'hui, on examine un mort depuis plus de 24 heures, un corps qui a commencé sa décomposition, et que Jésus touche la civière, et que ce jeune homme, cet adolescent, ressuscite, cela n'est pas fait uniquement pour être un épisode parmi tous nos dimanches. Il est là pour vous dire que lorsque vous perdez un enfant, que vous entendez parler de ces jeunes gens qui meurent dans un car, dans un accident de la route, que vous avez des corps qui sont abîmés, qui sont morts, Dieu, lui, peut leur redonner la vie. Jésus leur a redonné la vie. Et lorsque vous avez un prêtre qui vous console gentiment parce que vous avez un cancer ou que parce que vous avez perdu un enfant ou vous avez perdu vos vieux parents, il s'appuie sur non seulement l'existence de Dieu, mais sur la promesse que Dieu nous aime et qu'il a montré et prouvé son amour par des miracles. Si on vous parle du Padre Pio, si on vous dit qu'il a guéri des aveugles, si on vous dit qu'il a lu dans les âmes, qu'il a libéré des âmes de leurs péchés, si on vous parle de ces saints qui ont demandé à Dieu des résurrections de morts, si Marthe Robin va être béatifiée parce que pendant 50 ans elle n'a ni bu ni mangé et qu'elle a vécu la passion tous les vendredis, ce n'est pas pour rire. Et comme le dit saint Paul dans l'Épître aujourd'hui, on ne se rit pas de Dieu. Et ce monde va devoir rendre des comptes d'avoir dit que Dieu n'existait pas, que la vie jusqu'à 12 semaines, grosso modo 14 semaines, on pouvait la supprimer, qu'on pouvait cesser de vivre et demander à être assassiné, parce que l'euthanasie n'est qu'un assassinat demandé, avec la collaboration de celui qui nous assassine. Tout cela, voyez-vous, c'est un écroulement moral. Alors, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons être des enfants. Nous devons prier comme des enfants. Nous ne devons pas nous soucier de cet écroulement ou de cette apostasie générale de trop. Vous allez me dire, oui, vous en parlez toutes les deux minutes. Mais c'est en quelque sorte pour la fuir. C'est une catharsis. Car le plus important, c'est lorsqu'on se lève le matin, c'est d'offrir notre journée, d'offrir nos joies et les épreuves et les peines qui pourront venir dans cette journée. C'est de vivre, c'est d'être aimable, c'est d'être poli, c'est de cette politesse qui est la fleur de la charité. C'est dans notre travail ou dans notre retraite, essayer de trouver l'occasion d'être bon, d'être bienveillant, comme nous le dit saint Paul. Oui, c'est de remercier Dieu d'être vivant, quand bien même nous serions malades, quand bien même nous serions tétraplégiques, comment donner de la joie à un être qui n'aurait que sa tête qui puisse fonctionner et tout le reste de son corps paralysé? mais parce que nous dit saint Paul aujourd'hui, l'esprit vaut mieux que le corps, la vie spirituelle plutôt que la vie charnelle. Et nous savons bien que c'est vrai. Nous savons bien que l'espérance, c'est la récompense de la vie terrestre. C'est un Dieu qui nous promet qu'il y a une vie après la mort. C'est un Dieu qui nous promet que nous pourrons retrouver ceux que nous aimons. Aujourd'hui, Jésus dit à une mère de ne pas pleurer alors qu'elle a vu son fils mourir. Eh bien, les prêtres vous disent de ne pas trop pleurer parce que vous avez des êtres chers qui meurent. Seulement, ces prêtres-là, ils n'arrivent pas à obtenir systématiquement un grand miracle pour encore mieux vous consoler. Seulement, ils peuvent vous dire que Jésus, lui, il a dit à une mère de ne pas pleurer, et il a immédiatement ressuscité son fils. Eh bien, nous pouvons vous dire qu'il y a des saints et des saintes qui ont demandé cette grâce et qui l'ont obtenue pour que tous ceux qui n'ont pas obtenu la grâce d'un miracle de guérison à Lourdes ou même d'une résurrection peuvent quand même espérer et que tout cela est vrai. Et lorsqu'on vous dit qu'il y a des hosties qui se sont transformées en chair et c'était du muscle de cœur, la plupart du temps, lorsque justement la science moderne a analysé ces miracles eucharistiques, eh bien cela c'est pour vous dire que même s'il n'y a pas de miracle eucharistique aujourd'hui à la messe, Jésus est pourtant véritablement présent. Et quand le soir venu, vous offrirez votre journée avec ses joies et ses peines, que vous repasserez rapidement votre journée, dites-vous bien que celui qui vous écoute, celui à qui vous vous confiez dans cette prière du soir, il vous aime et il vous prépare justement la récompense de tous ses efforts. Voilà la foi, voilà l'espérance et voilà la charité qui est venue d'un Dieu qui a parlé aux hommes, qui a choisi un peuple, le peuple juif, pour lui parler et pour faire des miracles très intensément pendant des siècles, pour qu'ensuite, lorsqu'il est venu lui-même, tous les peuples autres que le peuple juif puissent avoir cette fondation, cette certitude qu'avait le peuple juif de l'existence de Dieu, de sa présence et de sa parole par les prophètes, par les saints et par les saintes. Nous sommes maintenant le peuple juif. Tous les baptisés sont le nouvel Israël. Et nous avons à témoigner maintenant, dans un monde qui est aussi fermé et aussi désespéré que les païens qui entouraient le peuple juif avant la venue du Christ. Alors, soyons joyeux, soyons forts, ayons la foi, prions le matin, prions le soir. Attachons-nous au chapelet, même si cela est peut-être trop répétitif ou ennuyeux pour certains. Priez le chapelet, parce que la Vierge Marie, dans ses apparitions miraculeuses, à Fatima comme à Akita, nous a demandé le chapelet, comme à Lourdes. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons besoin de ce surnaturel dans nos vies. Nous avons besoin de la foi, de l'espérance et de cette charité qui nous permet de nous pardonner les uns aux autres. Voilà ce que, de manière brouillonne, en ce début d'année, nous voulions entendre, que nous puissions avoir cette foi, cette espérance et cette charité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.